Jacques Soustelle, que sont ces Indiens autochtones des Amériques du Sud que vous avez étudiés ?
Eh bien, on emploie l'expression « les Indiens ». D'ailleurs, vous savez que c'est une erreur, n'est-ce pas ? Puisque Christophe Colomb s'est imaginé, lorsqu'il a touché une des îles Bahamas, n'est-ce pas, l'île de Guanahani, il a cru être aux Indes. Et il a appelé les habitants « indios », n'est-ce pas, ouais. Indiens. Et cette erreur est demeurée dans le vocabulaire, alors qu'évidemment, ce ne sont pas des Indiens, ce sont des autochtones de l'Amérique. On dit quelquefois des Amérindiens. Enfin bref, ce sont des gens d'origine asiatique, incontestablement. L'immense majorité, en tout cas d'entre eux, sont venus d'une zone de l'Asie que l'on situe maintenant, pour toutes sortes de raisons, entre la Corée et le nord de la Sibérie. Et ils sont passés d'un continent à l'autre, il suffit de vous dire qu'il n'y avait pas un écriteau disant « ici commence l'Amérique », probablement 25 000 ans avant notre ère. Et puis ils ont été arrêtés par les glaciers. Alors, il a fallu attendre que les glaciers se dissolvent. Et puis ils sont descendus vers le sud. Et par vagues successives, pendant des milliers d'années, on commence à en voir vers 7 000 avant notre ère au Chili, n'est-ce pas, tout à fait au sud de l'Amérique. Au Mexique, il y en a vers 15 000 ans avant notre ère, n'est-ce pas ? Alors, ces indigènes asiatiques à l'origine, appartenant à différentes ethnies déjà asiatiques, ce qui explique que les Indiens sont assez différents les uns des autres, ils se sont logés dans les compartiments du continent, qui est un continent très divisé par des fleuves immenses, par des montagnes, par des marécages, etc. Et ils ont évolué chacun de leur côté. C'est ce qui explique qu'au Mexique, par exemple, il y ait eu, à l'époque de la conquête espagnole, une cinquantaine de langages mutuellement inintelligibles, aussi différents les uns des autres que le français et le turc, par exemple.
Langage différent, mais civilisation identique, au sens où vous employez le mot civilisation.
Pas identique, mais il y a ce qu'on appelle la civilisation mésoaméricaine, c'est-à-dire une zone qui commence au milieu du Mexique, à peu près à la hauteur du tropique, n'est-ce pas, et qui se termine au Nicaragua. Alors là, il y a des traits communs dans les conceptions religieuses ou cosmologiques, dans l'architecture, dans l'organisation sociale, dans l'écriture. Bref, il y a une série de traits qui font qu'un Indien du Mexique Nord et un Indien du Mexique Sud ou un Indien du Guatemala se ressemblent plus qu'ils ne ressemblent par exemple à des Incas du Pérou, voyez-vous.
Ah, déjà, il y a quand même une grande différence.
Ah, il y a une grande différence.
Parce que vous avez étudié aussi les Incas.
Oh, un petit peu, comme tout le monde, si vous voulez. Puis je suis allé au Pérou. Eh bien, il est évident que la civilisation incasique, bien qu'elle ait des traits extrêmement grandioses par certains côtés, n'a pas le raffinement et le perfectionnement des civilisations mexicaines. Notamment, il n'y a pas d'écriture, n'est-ce pas ? Les Indiens du Pérou étaient des gens d'esprit très administratif. Ils comptaient tout, n'est-ce pas ? Depuis le nombre de têtes de lama jusqu'aux lances dans un arsenal, avec des ficelles de différentes couleurs, des nœuds de différentes formes, qu'on appelle des quipous, qui leur servaient un peu comme aujourd'hui on se sert d'un ordinateur. Mais ils n'ont jamais écrit. Alors que les Mayas, les Aztèques, tous les Indiens du Mexique avaient une écriture.
Ah bon. Mais même entre les Mayas et les Aztèques, il y a une grande différence.
Ah bah d'abord, le langage est totalement différent. Il n'y a pas plus de rapport entre l'Aztèque et le Maya qu'entre l'Italien et le Chinois. Ils sont deux langues totalement différentes.
Tout à fait différentes. Et il y a des siècles aussi d'écart entre les...
Seulement... Bon, les Aztèques sont des gens qui sont descendus de ce qui est maintenant le nord des États-Unis, le sud des États-Unis ou le nord du Mexique, n'est-ce pas, l'État de Utah, l'État de Arizona, et puis ils sont descendus, ils ont mis 2 ou 3 siècles à arriver au centre du Mexique. Mais ils appartiennent à une grande famille dont on trouve encore des représentants chez les Indiens qu'on appelle Pueblos, vous savez, aux États-Unis, n'est-ce pas. Tandis que les Mayas sont là depuis un temps immémorial, dans cette partie sud-est du Mexique et au Guatemala. Et alors il y a une douzaine de langages mayas, mais qui sont aussi semblables, enfin aussi proches les uns des autres que le français et l'italien, par exemple.
Quand ces Mayas et ces Aztèques vont se rencontrer, est-ce qu'il y aura un choc aussi terrible que celui qui se produira lorsque les Blancs européens rencontreront les...
Non, pas du tout. Il y a eu deux rencontres entre les gens du centre, si vous voulez, ceux qu'on appelait les Toltecs, qui étaient des gens parlant un idiome semblable à celui des Aztèques, mais plus ancien, qui sont arrivés au Mexique au 9e siècle à peu près. Et les Mayas, ça s'est passé au Yucatan vers l'an 1000 de notre ère, n'est-ce pas ? Alors les Toltecs sont arrivés au Yucatan et se sont mayisés assez rapidement. Ils ont introduit des notions du Mexique central, dans l'architecture, dans l'art, ça se voit. Mais en somme, la fusion des deux cultures s'est faite assez facilement. Il y avait beaucoup de points communs. Et puis la deuxième rencontre, ça a été quand les Aztèques, alors eux, au 14e et 15e siècle, sont descendus vers le sud et ils ont notamment incorporé à leur empire une province dont les gens encore aujourd'hui, d'ailleurs c'est au Chiapas du Mexique, les gens aujourd'hui s'appellent Tzotzil. Tzotz en maya, ça veut dire chauve-souris. Et les Aztèques ont appelé cette province Sinacantan, ce qui en aztèque veut dire le pays des chauves-souris. Vous voyez la différence entre les deux langages, entre Tsos et Sinacantan, il n'y a pas beaucoup de rapport, n'est-ce pas ? Alors, il y a eu ces deux rencontres, et par exemple au Guatemala, vous avez une quantité, il y a eu une quantité de petits états, généralement centrés autour d'une forteresse, qui avaient des dynasties qui se vantaient, plus ou moins, à juste titre, d'être descendantes de gens du Mexique central, n'est-ce pas ? Et là, si vous prenez une carte du Guatemala, vous verrez qu'il y a beaucoup d'endroits dont le nom se termine par les trois syllabes Tenango. Tenango, ça veut dire en aztèque lieu fortifié. Alors il y a Quetzaltenango, il y a Chimaltenango, etc. Eh bien, c'était des petits états, assez belliqueux d'ailleurs, n'est-ce pas ? Et dont les dynasties se vantaient d'être d'origine Mexique centrale. Plus ou moins, à juste titre, un peu comme chez nous, il y a eu des familles qui se vantaient de descendre de Clovis ou des grands rois francs, n'est-ce pas ?
Et là, maintenant, vous allez publier un livre sur Teotihuacan, c'est ça ?
Teotihuacan. Oui, la ville dont le nom veut dire en aztèque l'endroit où l'on devient Dieu, parce qu'il y a une légende qui veut que c'est là que le soleil et la lune aient pris leur origine, dans des temps très anciens, évidemment. Mais tout ce que nous savons de Teotihuacan, et on commence à connaître un peu ce qu'a été cette civilisation, qui a régné en maîtresse sur tout le Mexique et le Guatemala entre le début de notre ère et le 7e siècle, donc coïncide avec notre haut Moyen-Âge, n'est-ce pas ? C'était une civilisation essentiellement terrestre, agricole, et je ne pense pas qu'il y ait eu de culte du soleil ni de la lune. C'est venu après.
Quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer justement à faire ces recherches, ces travaux sur toutes ces civilisations ?
Bien, chez les Indiens actuels, la grande difficulté, c'est le contact humain, n'est-ce pas ? Les Indiens sont par nature des gens réservés, ce qui d'ailleurs ne me déplaît pas, parce que ils ont une dignité qui est extrêmement, au fond, respectable. Mais enfin, ils sont réservés, ils se livrent difficilement. Pour devenir amis d'un Indien, et comme ça s'est produit, par exemple, quand j'ai travaillé chez les Indiens Otomi, qui sont ceux du plateau central, au fond, et qui ont certainement fourni la main-d'œuvre des grandes pyramides de Teotihuacan. C'est une tribu qui parle un langage, là aussi, totalement différent des autres, que certains rapprochent du chinois, d'ailleurs je crois qu'ils se trompent, mais en tout cas c'est une tribu très spécialisée, très différente des autres, et ce sont des gens peut-être plus réservés encore que les autres Indiens. Alors pour me faire vraiment adopter par un village, y être tout le temps, poser des tas de questions, apprendre le langage, etc., il a fallu du temps. Mais j'y suis parvenu, je suis même parvenu à être membre d'une confrérie, n'est-ce pas ? Parce qu'il y a chez les Indiens des confréries en apparence religieuses, enfin non, je dis en apparence, j'ai tort, elles sont religieuses, mais d'une religiosité qui est à la fois catholique et précolombienne, n'est-ce pas ? Et qui rend un culte, pardon, cette confrérie rendait un culte à la déesse lunaire, qui est en même temps la Vierge de Guadeloupe.
Ah.
Ben, les Otomis l'appellent Tsinana, c'est-à-dire la Vénérable Mère, Zana, la Lune. Mais ils vont, tous les mois de décembre, danser devant la cathédrale de la Vierge de Guadeloupe et près de Mexico.
Je retiens ça pour une autre question, si vous voulez bien, mais un peu plus tard. Quand même, vous me dites, n'est-ce pas, donc, ces problèmes, ces difficultés, l'intérêt que ça peut représenter de curiosité, mais l'homme contemporain, formé justement aux sciences mathématiques que vous évoquiez plus tôt, n'est-ce pas, est-ce que l'homme contemporain ne dira pas, mais à quoi ça sert toutes ces études de civilisation disparue ou en voie de disparition? Quel est l'intérêt? Vraiment, non pas l'intérêt anecdotique, mais l'intérêt profond pour l'homme d'aujourd'hui.
Eh bien, c'est tout de même de mieux connaître l'homme et par conséquent de se connaître soi-même. Hein. Gnotis eoton, hein, c'est la vieille devise que Socrate nous a laissée. Je crois que sous toutes les latitudes, avec toutes les couleurs de peau, avec toutes les différences, il y a tout de même une réalité qui est l'homme. Et si on est chrétien, on croit que tous les hommes sont frères. Alors il est bon de connaître ses frères aussi. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de la connaissance des autres cultures. Et puis peut-être est-ce que c'est un, disons, une occupation en tout cas innocente. On ne peut pas me reprocher de m'y consacrer. Et vous parliez des difficultés. Lorsqu'on va chez les Lacandones, alors là c'est différent. Eux, ils vivent en petits groupes, au sein de la grande forêt, dans la vallée du fleuve Usumacinta. Et alors, quand on sait à peu près où ils habitent, il faut d'abord marcher plusieurs jours dans la forêt, et puis arriver à un certain point, il faut tirer des coups de feu en l'air. Alors, s'ils sont de bonne disposition, ce qui est généralement le cas, ce sont des Indiens aimables, ils arrivent. On les voit brusquement surgir, silencieux, avec leurs grandes tuniques blanches, leurs longs cheveux tombant sur les épaules et leurs gros cigares, car n'oubliez pas que le cigare est une invention maya. Alors ils cultivent le tabac et ils font de gros cigares. Et ils ont été très amicaux avec moi. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu un Français qui revenait de passer quelques moments dans la forêt des Lacandons. Il y a rencontré un Lacandon qui s'appelle Chankin, le petit soleil, et que j'ai connu, moi, il y a 40 ans. Alors, il a évolué comme moi-même, il n'a pas rajeuni, mais il est toujours là, il a demandé de mes nouvelles.
Ah, c'est super, c'est super. Mais, puisque nous parlons de ces rencontres personnelles, il faut quand même aussi évoquer le problème plus général, ce problème général de la rencontre des civilisations, n'est-ce pas ? Il se produit à la fin du XVe siècle, ce choc entre des Occidentaux, des Européens qui arrivent en Amérique. Et aujourd'hui, beaucoup de ceux qui réfléchissent sur le sujet croient que ça a été un drame pour les Indiens, que cette arrivée des Européens, et que nous nous sommes comportés là d'une façon épouvantable. N'est-ce pas ? Vous, comment jugez-vous ?
Alors, j'ai pas besoin de vous dire que je suis évidemment très sympathique aux Indiens. Mm-hmm. Enfin, j'ai beaucoup de sympathie pour eux, a priori, sans quoi je ne ferais pas ce que je fais. Cela dit, je crois qu'il ne faut pas voir les choses de façon manichéenne, tout en blanc ou tout en noir. D'abord, les Européens. Bon, c'était à l'origine les Espagnols, puis les Portugais, pardon, des Espagnols que je connais mieux. La première vague, c'était des gens qui avaient avant tout des soucis économiques, si je peux dire. Ils voulaient s'emparer de l'or en particulier. L'or exerçait une fascination inouïe sur les conquistadores. Mais on ne peut pas non plus nier qu'ils avaient des préoccupations spirituelles, si c'est vrai. Ça coexistait chez eux. C'est pas... Un homme comme Cortés, par exemple, qui s'est révélé être un chef de guerre, un diplomate très habile, un conquistador, un conquérant, quelquefois sans scrupule, n'hésitant pas à faire massacrer des gens. Par ailleurs, il est incontestable qu'ils voulaient sincèrement étendre la religion chrétienne à ce qu'ils considéraient comme des malheureux esclaves du démon, n'est-ce pas ? N'oublions pas que quelqu'un comme le père Sahagun, par exemple, qui a été un grand missionnaire catholique, un grand ami des Indiens, il les appelait ses fils, et qui a énormément fait pour que nous, aujourd'hui, nous connaissions ce qu'étaient les Indiens du XVIe siècle. Le père Sahagun a écrit dans un de ses livres tout un développement dans lequel il explique que les dieux mexicains ne sont pas des non-entités, qu'ils existent réellement, mais que ce sont des démons. Donc la doctrine officielle à cette époque, c'était que les malheureux Indiens étaient victimes d'une tromperie, d'une escroquerie morale extraordinaire, à savoir que Quetzalcoatl, Tezcatlipoca, Huitzilopochtli, tous ces dieux terribles ou souriants, puisqu'il y en avait de toute espèce, n'est-ce pas, étaient en vérité des démons qui trompaient les Indiens. Et alors, après la vague des conquistadores, ce qui a été brutal, il faut le reconnaître, sont venus les missionnaires, et beaucoup de ces missionnaires ont été des gens admirables. Je parlais de Sahagún, mais beaucoup d'autres, et naturellement le père Das Casas, qui ont protégé les Indiens, qui les ont même défendus contre les Espagnols, obtenant ce qu'on appelait les Nuevas Leyes de Indias, les Nouvelles Lois des Indes, qui, par exemple, interdisaient aux Espagnols de passer plus d'une journée dans un village indien. Ils leur interdisaient d'y demeurer la nuit.
Mais il n'en demeure pas moins, M. Soustel, que nous sommes responsables de l'extermination de nombreuses tribus, de choses de
Alors, il n'y a pas eu extermination. Alors là, je m'inscris en faux contre ce qu'on appelle la légende noire. En tout cas, je parle de l'Empire espagnol. J'en dirai peut-être pas autant de ce qui s'est passé au nord. Mais dans ce qui a été l'Empire espagnol, il y a eu disparition, en effet, d'ethnies, mais pas par massacre ou destruction délibérée, par le fait qu'hélas, les Espagnols, sans le savoir, apportaient avec eux des microbes contre lesquels les Indiens n'étaient pas immunisés. La grippe. Encore aujourd'hui, si vous allez chez des Lacandons et que vous ayez le malheur d'éternuer ou de tousser devant eux, ils vous chassent. Parce qu'ils savent que ce qui chez nous est un rhume banal, chez eux dégénère en pneumonie. Le grand savant américain, ou anglais plutôt, Thompson, le plus grand spécialiste des Mayas, a démontré que la disparition de très nombreux Mayas a eu lieu bien après la conquête, et pas du tout par l'action des Blancs, mais par celle des épidémies. Et ces épidémies, les Blancs eux-mêmes ne savaient pas qu'ils en étaient porteurs.
Et donc nous ne pouvons pas nous sentir coupables.
Nous sommes coupables de fait, si vous voulez, mais pas d'intention. Lorsque Cortés est arrivé à Mexico, il amenait avec lui dans ses bagages, pour ainsi dire, un noir de Cuba, qui était atteint de la petite vérole. Et pour les Espagnols, ça n'avait rien d'extraordinaire. Mais ça a déclenché une épidémie telle qu'en quelques semaines, une grande partie de la population de la ville de Mexico, y compris le roi Cuitláhuac, sont morts. Et ça a été une des causes essentielles de la conquête de Mexico. Les gens étaient morts, simplement. Mais pas parce que les Indiens, parce que les Espagnols les avaient massacrés. Donc vous voyez, il faut être très prudent dans ces appréciations. En ce qui concerne le nombre d'Indiens, je tiens pour assurer qu'il y en a autant aujourd'hui au Mexique qu'au temps de Moctezuma.
Alors, qui sont actuellement quand même dominés et qui vivent dans des conditions...
Pas forcément. Le Mexique est un pays où, fort heureusement, les discriminations raciales ont cessé depuis assez longtemps, et où on rencontre des Indiens dans les grades élevés de l'armée ou dans ceux de la politique.
Mais tout à fait européanisé, tout à fait...
Oui et non, vous savez, c'est un pays de syncrétisme. Je parlais tout à l'heure de la religion, par exemple. La religion moyenne du Mexique, celle des campagnes en tout cas, c'est un syncrétisme où il y a du christianisme, où il y a aussi des traces, mais plus que des traces, des religions anciennes.
Mais puisque nous revenons à ce sujet du christianisme, oui. Est-ce que il n'est pas vrai, en tout cas c'est ce que certains historiens affirment, est-ce qu'il n'est pas vrai que le christianisme a été imposé de force à ces Indiens.
Là encore, je dirais qu'il faut être prudent, oui et non. De force dans la mesure où les Espagnols ont par exemple détruit des idoles. Non, dans la mesure où les Indiens eux-mêmes se sont jetés quelquefois avec avidité sur cette nouvelle religion. Car, n'est-ce pas, il n'y a pas de peuple plus pieux que les Indiens, et notamment les Aztèques. Les Aztèques avaient la réputation, au Mexique même, dans l'Antiquité, avant les Espagnols, d'être le peuple le plus religieux qui ait jamais existé. Alors quand ils ont vu arriver cette religion nouvelle, en général, ils l'ont accueillie avec beaucoup d'enthousiasme. Le père Motolini, qui a été un grand missionnaire, raconte qu'il fallait modérer les Indiens, car, comme il dit en espagnol, s'adressant à ceux qui n'étaient pas encore christianisés, a palos los querían hacer entrar al cielo. À coups de bâton, il voulait les faire entrer au ciel. Et il se livrait à des macérations, comme on dit, à des sacrifices, de, par exemple, de fustigation, et qui faisaient peur aux missionnaires. Donc il y a eu beaucoup de choses, vous savez, très différentes. Actuellement, je le répète, la religion populaire au Mexique est à la fois chrétienne et ancienne, et il s'est fait une synthèse qui, mon Dieu, n'est pas, comment dire, n'est pas repoussante. Si vous disiez à un brave Indien, tel que j'en ai connu, qui n'est pas un bon chrétien, il serait furieux. Et en même temps, il trouve tout naturel de considérer que la Vierge, c'est la Lune, et que le Seigneur de Chalma, qui est un Christ, est en même temps le dieu, le Hostoteot, le dieu des cavernes, enfin c'est comme ça.
Nous avons parlé du choc des civilisations, de la rencontre des religions. Est-ce que actuellement, dans le monde où nous vivons, nous ne connaissons pas des situations un peu semblables? Est-ce que, par exemple, la rencontre très, très violente, même actuellement, de nos civilisations chrétiennes, si on peut les appeler ainsi, et de traditions chrétiennes et de civilisations de tradition musulmane, islamique, est-ce qu'il n'y a pas là un choc actuellement qui a de quoi inquiéter?
Si, je le trouve très inquiétant, et en particulier, comme je crois l'avoir dit tout à l'heure, par le fait que l'islam s'applique à tous les aspects de la vie. Et par conséquent, être musulman, c'est pas seulement croire un certain nombre de choses concernant la religion, mais c'est aussi se plier à un certain moule politique. Et ça, c'est grave.
Valérie avait dit « civilisation, nous savons maintenant que nous sommes mortels ». Croyez-vous que la civilisation occidentale soit menacée actuellement?
Je crois qu'elle est en mutation et que probablement nous sommes en chemin vers une phase nouvelle. Le grand anthropologue américain Kreuber disait que notre civilisation était née des civilisations helléno-romaines et chrétiennes, c'est-à-dire il y a les trois sources, n'est-ce pas? Athènes, Rome, Jérusalem. Elle est née, disons, vers 500 ou 600 de notre ère, au moment de la dissolution définitive de l'Empire romain, et par conséquent, elle s'est émancipée en quelque sorte, sous une forme d'abord assez rudimentaire, parce qu'enfin nous n'avons pas lieu d'être très fiers de nous à cette époque. Nous étions des barbares, alors que les Mayas étaient infiniment plus civilisés que nous, n'est-ce pas? Au même moment. Bien. Puis, il y a eu la phase médiévale, la Renaissance et la Réforme, la phase moderne, et d'après Kreuber, nous sommes actuellement dans les affres d'une nouvelle mutation, nous conduisant vers une forme nouvelle de cette même civilisation, mais une forme nouvelle. Oswald Spengler a lancé l'expression de « seconde religiosité ». Autrement dit, d'après lui, il y a une phase de scientisme et de matérialisme, et puis revient une phase religieuse. Notez que c'est vrai dans la civilisation romaine. Premier siècle, Lucrèce, De natura rerum, n'est-ce pas, la vision matérialiste des choses. Et puis est venue la grande vague religieuse qui a culminé avec le christianisme. Peut-être est-ce que c'est ce qui va nous arriver, mais sous une forme que nous ne pouvons pas deviner à l'heure qu'il est.
Est-ce que vous pensez que le christianisme serait qu'une forme religieuse ou qu'il constituerait au contraire une dimension essentielle de la vie religieuse ?
Il est bien difficile de répondre à cette question, car comme je le disais tout à l'heure, le besoin de Dieu, n'est-ce pas, la pulsion religieuse est essentielle à la nature humaine. Elle prend des formes différentes. Pour notre monde à nous, il est évident que c'est le christianisme qui en est l'expression la plus générale. Mais il est possible que, quelques jours, des formes nouvelles apparaissent.
Est-ce que ce qui a été vécu par ces autochtones d'Amérique du Mexique ne pourrait pas être vécu aussi ailleurs, une rencontre du christianisme et d'autres religions qui pourraient produire un...
Eh bien, ce qui caractérise notre monde, c'est qu'il est plein. Je veux dire par là qu'il n'y a plus de zone d'où pourrait surgir une civilisation nouvelle, inconnue de nous, n'est-ce pas ? Par exemple, pour nos ancêtres d'Afrique du Nord et d'Europe du Sud, il y a eu brusquement l'apparition de l'islam, l'escavalier surgissant du fond du désert arabe et qui, en quelques décennies, ont envahi une grande partie du monde. Bien, pour les Indiens d'Amérique, c'était ces hommes blancs venant du Tlilantlapalan, n'est-ce pas, la terre rouge et noire, comme ils appelaient l'Occident, et brusquement, des gens inconnus surgissant avec des langages, des religions, avec les canons, avec les chevaux, bref, avec une foule de choses bouleversantes. Pour nous, ça ne pourrait être alors que des gens de la planète Mars, si vous voulez. Mais sans ça, de la Terre elle-même, il n'y a plus rien.
Certains philosophes ont récemment proclamé, après avoir proclamé la mort de Dieu, la mort de l'homme. Pour l'ethnologue, que signifie cette affirmation ?
Écoutez, par nature et peut-être aussi par formation, je suis contre les formules définitives de ce genre. Je ne crois ni à la mort de Dieu, ni à la mort de l'homme. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par mort de l'homme ? Une certaine notion de l'homme, peut-être, et encore, j'en suis pas sûr. Notre philosophie de l'homme, notre anthropologie a évolué depuis le XVIIIe siècle. Nous ne sommes plus à l'époque d'Helvétius, ou même de Jean-Jacques Rousseau. Il n'en reste pas moins que l'homme est une réalité qui s'impose à nous, et... Je crois que l'anthropologie, bien qu'elle soit aujourd'hui une science assez négligée dans notre pays, plus qu'ailleurs, je le regrette d'ailleurs, l'anthropologie demeure tout de même quelque chose de très important dans la pensée moderne.
Et que donc l'homme a encore un avenir.
Sûrement, sûrement. Nous, en réalité, si on y réfléchit un peu, nous sommes très jeunes. Vous savez la fameuse phrase, le vers de Musset, « Je suis venu trop tard dans un monde trop vieux ». Mais quelle erreur ! Notre monde, en tant que nous sommes des civilisés, il date du néolithique, c'est-à-dire 12 000 ans. Qu'est-ce que c'est que 12 000 ans ? La Terre a commencé à se peupler d'êtres vivants, de bactéries ou d'êtres unicellulaires il y a 5 milliards d'années. Alors nous, qu'est-ce que nous sommes ?